Alors, vous rappelez que je suis en train d'enseigner sur la guérison et il me semble bon de continuer à le faire. Il y a tellement de méprise à ce sujet et ce que nous ignorons n'est pas une bénédiction. Alors, nous voulons prendre le temps d'étudier les Écritures parce que nous devons pouvoir répondre à cette question. Est-ce que Dieu me veut en bonne santé? Mais il est évident que dire « Est-ce que Dieu me veut en bonne santé ?» ça n'est pas suffisant parce qu'il faut le prendre dans le contexte d'un père. Dieu est un père. Et je pense que si beaucoup reprenait ce contexte, eh bien, il n'aurait aucune difficulté à trouver la réponse. Parce qu'un père qui est normal, un père qui est bien dans sa tête, veut que ses enfants aient le meilleur. Et le meilleur, ça doit inclure la santé. Ça n'est pas normal si un père voyait son enfant souffrant et s'en détourne ou dise « Ah bien, toi tu vas apprendre quelque chose avec cette fièvre qui est montée à 42 ». On dirait qu'il n'est pas bien. On ferait certainement venir la police et on ferait une enquête sur ce père-là et il y aurait de la. On qualifierait cela de maltraitance. Et comment pourrait-on imaginer que notre Père céleste veuille nous traiter moins bien qu'un Père naturel, qu'un Père terrestre? Il ne peut pas en être ainsi. Mais j'aimerais voir un autre aspect de la volonté de Dieu, de ce que Dieu pense de la santé, de ce que Dieu pense de la maladie. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas inventer les choses à ce sujet. Regardez avec moi dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » Une autre version dit, « Le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, « Maudit soit quiconque est pendu à un arbre. » C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordé aussi aux non-juifs grâce à Jésus-Christ et que nous recevions tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Quand il est dit que nous recevions tous, tous s'adresse aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. Ici, quand on reprend le contexte, eh bien, il est question d'Abraham qui est pris comme l'exemple de quelqu'un qui a été béni par sa foi, parce qu'il a cru que Dieu était fidèle et que Dieu est ce qu'il dit qu'il est, que Dieu fait ce qu'il dit qu'il fait. Et Abraham n'a pas été béni à cause de ses œuvres, à cause du bien qu'il aurait fait ou du mal qu'il n'aurait pas fait, mais Abraham a été béni parce que dans sa relation avec Dieu, il a eu confiance dans le caractère et la nature de Dieu. Et il est dit que si nous acceptons d'avoir une relation avec Dieu qui repose sur la confiance et non pas sur nos propres œuvres méritoires, sur nos performances, alors il y a la première chose, c'est que nous recevons l'Esprit, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, cela fait de nous des fils adoptifs, c'est-à-dire nous avons tous le droit à la nouvelle naissance. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Et la promesse qui avait été faite à Abraham, c'est que lui serait béni et à travers sa bénédiction, toutes les nations seraient bénies. Mais n'importe quelle bénédiction se reçoit par la foi. Il n'y a pas d'autre manière de recevoir de Dieu. La Bible est pleine de promesses qu'il garantit, non seulement par sa nature, mais il y a une double garantie parce que ces promesses ont été accompagnées d'un serment, an oath en anglais, d'un serment. Et ce serment a été validé par le sang de l'alliance qui a été versé. Donc quand Dieu nous fait une promesse, quand il dit « je voilà ce que je te promets », Dieu n'a pas l'intention de changer d'avis. Mais quoi que ce soit que Dieu ait fait comme promesse, il n'y a pas 36 manières de les recevoir. On ne reçoit pas les promesses de Dieu grâce à nos bonnes œuvres, grâce à notre choix de bien faire, de ne pas bien faire. Ça, c'est impossible. Impossible d'avoir une relation avec Dieu qui se mesure selon notre standing de bonnes œuvres. Notre relation avec Dieu est uniquement par la foi et par cette même confiance en qui il est, je vais recevoir tout ce qu'il a dit qu'il me donnait. Alors, la vraie question est-ce qu'il veut me donner la santé ou est-ce que ça lui est égal si je suis en bonne santé ou pas. Alors ici, il est bien évident que la justification par la foi, c'est-à-dire la possibilité de se tenir devant Dieu comme si on n'avait jamais péché, c'est-à-dire le fait que Dieu nous traite comme des innocents. Cette seule manière de vivre avec Dieu, bien, on se rend compte qu'elle n'est pas venue avec le livre de Matthieu. Déjà dans l'Ancien Testament, la justification par la foi existait. C'est l'exemple que nous a laissé Abraham. La seule manière de vivre avec Dieu, c'est de croire en qui il est et de croire qu'il est fidèle. Maintenant, regardez avec moi dans... je vais reprendre Galates chapitre 3. Il est dit « Christ nous a rachetés ». Alors, Christ nous a rachetés. L'idée de rachat ici est liée au fait qu'une rançon a été payée. Et oui, 2 Pierre chapitre 1, verset 18 nous dit que nous n'avons pas été rachetés, c'est-à-dire nous ne sommes pas la propriété de Dieu à nouveau. Acheter, si vous achetez, ça veut dire que vous devenez propriétaire, non ? C'est-à-dire que vous faites partie de la juridiction de ce propriétaire. D'accord ? Bien. Et quand l'humanité, quand Adam et Ève, qui représentaient toute la race humaine, ont choisi de se détourner de Dieu en faisant leur vie sans Dieu, eh bien, à partir de ce moment-là, ils sont entrés sous une autre juridiction, celle des ténèbres, qui est dominée par l'ennemi de Dieu. Mais Dieu n'est jamais à court d'un plan. Peu importe combien de fois on s'est trompé, peu importe combien de fois on a gâché quelque chose, si sincèrement on veut retourner à Dieu, Dieu a toujours un plan. Dieu fera toujours, en tout cas ce que le Seigneur fera, il fera toujours en sorte de nous offrir la possibilité de revenir à lui. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a envoyé Jésus qui nous a non pas acheté simplement, mais racheté par le sang de Christ. Quand le Seigneur a accompli ce rachat, il a donné le choix à tout être humain. Maintenant, tu es libre de choisir. Est-ce que tu veux revenir vers moi parce que le prix a été payé ? Ou est-ce que tu veux faire ta vie sans moi ? Et dans ces cas-là, tu restes sous la juridiction de mon ennemi. Et je ne peux rien faire dans ta vie. Alors ça, c'est le vrai choix qui est placé devant l'humanité entière. La Bible nous dit, Christ, parce que le mot Christ, qui veut dire « oint », a été placé en tout début de phrase, en grec, cela veut dire « Christ est lui seul ». C'est-à-dire que pouvoir retourner à Dieu légalement parce que le prix a été payé en sachant que Dieu n'est que bon, donc on retourne vers quelqu'un qui n'est que bon, eh bien ne peut se faire que par Christ et Christ seulement. C'est-à-dire que nous sommes en dehors de cette transaction. Nos œuvres ne nous réconcilient pas avec Dieu, juste Christ seulement. Alors, il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, on pourrait se dire, oui, mais nous n'étions pas, nous, pour ceux qui d'entre nous ne sont pas juifs, on pourrait dire, mais la loi s'adressait aux juifs uniquement. Alors oui, la loi de Moïse. Et effectivement, la loi de Moïse avec les quelques 613 commandements, enfin il y en avait 10 au départ et puis après ça s'est ajouté, cette loi s'adressait uniquement qu'aux juifs, mais ceci dit, pour ceux qui ne sont pas juifs, ben, il est dit dans Romains chapitre 2 verset 12, il est dit « Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront ». Sans subir cette loi, pourquoi périront? Parce que la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité entière a été séparée d'avec Dieu. L'humanité entière. Parce que la Bible dit, tous nous avons péché. Et tous, ça comprend qui? Tous, les juifs et les non-juifs. Et la Bible nous dit ici, ceux qui ne sont pas sous la loi de Moïse, s'ils n'acceptent pas le Seigneur, ce que le Seigneur a fait à la croix, ils vont quand même périr sans cette loi. Pour ceux qui ont cette loi et qui pêchent en connaissant la loi, eux, ils seront jugés par la loi. Alors tu dis, mais comment est-ce que les non-juifs pourraient être trouvés coupables? Ben, c'est simple, parce qu'il est dit au verset 14, quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent de même en pratique comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas, ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en rend de témoignage également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. C'est-à-dire, la Bible nous dit que l'humanité entière a dans son cœur inscrite la loi de Dieu. Mais pour que cette loi de Dieu, loi-là, soit rendue compréhensible, il a fait une alliance avec certains qui ont accepté le deal et qui sont aujourd'hui le peuple juif, et eux ont reçu la loi qui était inscrite dans notre cœur, résumée sur des tablettes de pierre. Vous comprenez? Mais cela veut dire que, de toute façon, on a tous péché contre Dieu. Et ce qu'il est dit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, c'est-à-dire que pour celui qui enfreint la loi de Dieu, écrite dans leur cœur ou résumée sur des tablettes de pierre, je dirais, en noir et blanc, eh bien, le fait d'enfreindre la loi de Dieu nous lie à la malédiction. Alors moi, j'aimerais savoir, il est dit, Christ est devenu pour nous malédiction. Et quand il est devenu pour nous malédiction, il nous a libérés de la malédiction. Ben moi, j'aimerais savoir de quoi avons-nous été libérés. Alors, quand il est dit, maudit, car maudit est celui qui est pendu au bois. Dans Deutéronome 21, je vous le cite, voilà comment ça se passait. C'est que celui qui avait commis le plus horrible des crimes, eh bien, était... Je vais juste vous le lire. Deutéronome 21, il est ici quelque part. « Ben non, c'est pas dans ce, sur cette feuille-là. Bon, je vais vous le citer. Il est dit que celui qui avait commis le plus grave des crimes devait être mis à mort et ensuite, son corps mort devait être suspendu, exposé sur du bois. Et Dieu jugeait que c'était là une mort maudite, une mort infâme. Et il se trouve qu'après ça a évolué, et c'était pas la volonté de Dieu, mais en tout cas ça a évolué dans la loi des hommes, et on sait que Jésus vivant a subi cette mort abjecte, cette mort infâme, parce qu'il, et d'ailleurs les deux voleurs aussi, hein. Pourquoi ? Parce qu'il a été traité comme le plus grand des criminels. Non pas à cause de ce qu'il avait fait, parce que la Bible est claire, personne n'a pu trouver, malgré le faux procès qu'il a subi. Il n'y avait rien dans son procès qui était juste. Un jour, j'ai prêché là-dessus. J'ai revu le procès de Jésus. Et son procès il n'était pas légal. Hein, il y a eu beaucoup de défauts dans ce procès, de divers vices de forme. Ceci dit, Jésus a été, malgré tout ce qui a pu être dit contre lui, rien n'a pu être prouvé parce qu'il n'avait jamais péché. Il était le seul à pouvoir payer le prix pour vous et pour moi. Il était le seul à pouvoir nous libérer de la malédiction d'avoir enfreint la loi de Dieu. Maintenant, vous êtes prêts? Je continue ou... Deutéronome, regardez avec moi. Dans Deutéronome chapitre 28, Dieu est bon. Vous savez, dans notre vie chrétienne, nous devons avoir des certitudes. Il y a des fondamentaux qui doivent être posés dans notre vie et ça, ce sont comme les fondations d'une maison. Et quand ces fondamentaux sont posés, alors nous pouvons avoir une vie qui est forte dans tous les domaines de notre vie. Regardez Deutéronome chapitre 1. Alors je vous ai dit que Deutéronome chapitre 28, pardon, verset 1. Ce que le Seigneur a fait, c'est que personne sur terre n'arrivait exactement à comprendre les exigences de Dieu. Personne ne pouvait comprendre que l'on méritait la mort. Personne ne pouvait définir le péché. Donc le Seigneur s'est suscité un groupe de personnes, a passé une alliance avec eux, et le message qu'il donnait, c'est « je vais vous montrer mon standing ». Je vais vous montrer ce que cela veut dire, ma notion du péché. Parce que quelquefois, les gens disent « oh mais moi, j'ai rien fait de mal ». Et puis, on peut dire « mais t'as jamais menti dans ta vie ?» Oui, mais non, mais voilà, selon la définition de Dieu, ça c'est péché. La Bible dit que même le fait de ne pas faire quelque chose par conviction est péché. Donc, et c'est pas difficile de comprendre, oui, on a tous péché dans notre vie. Mais la vraie définition de Dieu, je veux dire, de manière tangible, mettre le doigt sur ce que Dieu appelle péché ou pas et les conséquences, il fallait lui-même qu'il rende pratique cet exercice. Et il l'a fait en donnant la loi. Et ici, regardez ce qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 28. Donc le Seigneur s'adresse au peuple qui a fait une première alliance avec lui et qui a accepté la loi écrite. Et le Seigneur lui dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Nous sommes d'accord que là, nous allons être dans les œuvres, c'est ça? Oui. Oui. Et il dit, alors voilà, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, mais se répandre, ça veut dire, style, c'est un déluge qui te tombe dessus. et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Qui aimerait être béni dans la ville? Et pour ceux qui vivent à la campagne? Ah oui. Alors, bénir, hein, le verbe bénir, c'est la puissance d'augmenter, la puissance de la multiplication. C'est-à-dire que je ne devrais pas vivre au même niveau qu'il y a 10 ans. La Bible nous dit, dans le livre des Actes, que Dieu est le Dieu de la vie, du mouvement et de l'être. Dieu est continuellement en mouvement. Nous devrions continuellement être en mouvement. C'est-à-dire que nous ne devrions pas avoir peur de demander des choses nouvelles au Seigneur, que le Seigneur veut donner à ceux qu'il aime. Et la boucle est bouclée. Bon. Il dit, alors, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies, savoir avec les comptes, les investissements, les placements. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Alors, que ton ennemi soit peut-être quelqu'un qui parle mal contre toi ou que ton ennemi s'appelle maladie chronique, que ton ennemi s'appelle peut-être un faux procès, un procès que l'on te fait sur quelque chose qui est complètement injuste, que ton ennemi s'appelle manque de travail, que ton ennemi s'appelle confusion, peu importe le nom de ton ennemi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es béni, tu n'as pas peur de regarder tes ennemis en face parce que tu as confiance qu'il est celui qui va t'en délivrer. Et il te suffit de rester dans le calme et la confiance. Et la Bible dit que tes ennemis, le Seigneur va tellement s'en charger qu'ils ne vont pas repartir par le chemin par lequel ils sont venus. Ils vont partir par 7 chemins différents. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des manières de partir, de s'éloigner de toi. Dis à ton voisin, waouh, ça va bien. Il est dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dis-moi, quand l'Éternel ordonne, il l'ordonne ou pas? Tu crois que c'est un ordre que la bénédiction prend au sérieux? Oui. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que tu réussiras partout où tu iras, quand ce que tu fais est fait au nom du Seigneur. Qui a envie de réussir? Qui a envie d'être un loser ici? Alors certains, ils ne parlent pas anglais. Non, bonjour. Ok, je vais le dire en français. C'est un mot à la mode, mais je vais le dire en français. Qui a envie, qui aime être un perdant? Non. Si quelqu'un est bien dans sa tête, il n'a pas envie de perdre. Ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire que le succès ne devrait pas le laisser indifférent. Et la Bible nous dit que si l'Éternel est avec toi, et rappelons que là, il est en train de dire, voilà ce qui se passe quand tu obéis. Il dit, je te ferai réussir dans tout ce que tu entreprends. Ça veut dire qu'il y aura une augmentation dans tout ce que tu entreprends. Ça veut dire que tu achètes une maison, tu la revends, peu importe le marché, elle vaudra plus cher. Ça veut dire que tu te lances dans une nouvelle aventure, eh bien, ça augmentera. Les clients viendront à toi, les clients viendront te chercher. Ça ne veut jamais dire que tu ne fais pas ta part, mais en tout cas, toi faisant la tienne, Dieu, lui, fera certainement la sienne. Il est dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et pour les Juifs, ça c'est Israël. Là où ils étaient dans la diaspora avant que la terre ne leur revienne. Mais maintenant, c'est Israël. Et puis, il est dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Rappelons-nous que ça, c'est un échantillon. Hein. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Qui aime cette idée? en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol et le dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor dans le ciel pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et Dieu ne peut bénir que le travail. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Ça, c'est le degré de la bénédiction. Dieu veut que ceux qui lui font confiance arrivent au stade où ils n'ont pas besoin d'emprunter, mais au contraire, ils sont tellement bénis qu'ils peuvent prêter. Ils peuvent donner, mais ils peuvent prêter aussi. Et il est dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut. Et l'idée, c'est, tu seras en constante progression vers le haut. Tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris, etc. Tu n'iras pas après d'autres dieux. Verset 15, mais, quelqu'un dit mais. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et alors d'un côté on a vu les 14 premiers versets, voilà tout ce que je ferai pour toi si tu obéis, si tu respectes la loi. Mais si tu ne respectes pas, voilà la malédiction. Nous parlons de quoi là ? De la guérison, de la santé. Donc on va bien à un moment parler de la santé, non ? Il est dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors, la malédiction, elle est sur terre. D'accord ? Depuis la chute d'Adam et Ève, elle est présente sur terre. Donc, tout ce que Dieu a à faire, c'est juste se laisser faire. Il est dit, tu seras maudit dans la ville. Oh là là, j'ai envie de continuer à prêcher là-dessus, mais je vais continuer. Il y a un très bon livre là sur la bénédiction de Kenneth Copeland qui a été écrit, et je vous encourage, lisez-le. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites, c'est-à-dire il n'y a rien qui va marcher. À différents degrés, mais grosso modo, dans 10 ans, tu seras encore là, au mieux. Ce qui veut dire que personne ne devrait arriver au soi-disant âge de la retraite, un mot qui n'existe pas en hébreu au fait, hein. Mais personne ne devrait, selon la notion de Dieu, arriver. Si vraiment on comprend ce qu'est la bénédiction, et si on comprend ce que Christ a fait quand il est devenu malédiction pour nous, alors personne ne devrait arriver à l'âge de la retraite et avoir moins. Tu dis oui, mais tu sais, avec les cotisations. Non, 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 non. Je parle de la bénédiction. Aller au-delà. Personne ne devrait vivre uniquement. Si ça n'est pas assez, par le salaire, personne. Il y a d'autres moyens d'ajouter au salaire. Mais beaucoup ne pensent que le standing de vie ne vient que de l'employeur. Et il y a un problème avec cela, parce que le livre de Proverbes nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, il est dit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra. Alors là, je vous recommande de réécouter le message que j'ai prêché sur le fait de comprendre ce que cela veut dire que l'Éternel envoie. Hein? Par exemple, quand il est dit, tiens, tel juge a mis tel voleur en prison. Vous croyez que le juge est venu et qu'il l'a pris par la main? Il lui a passé les menottes et il l'a traîné jusqu'en prison. Il a refermé la porte à clé. Non, ça c'est un résumé, mais non. Dieu envoie la maladie, réécoutez le message que j'ai prêché. Mais en tout cas, là, on devrait comprendre dans quel sens. Il enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions, nous sommes sous la loi. qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste. Ah, ici il y a une maladie. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur. C'est pas une bénédiction, la langueur. De fièvre, d'inflammation. Regardez, tout ça, c'est tout ce qui est sur terre. Hein. Encore une fois, Dieu n'a pas besoin de dire, il siffle la fièvre, je ne vais pas le faire. Ici, il siffle, hey, toi là, va là, ouais, là, chez le petit roux là. Puis le blond à côté aussi, vas-y, bien, hein, là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est déjà sur terre. Et il est dit, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses, le ciel sur ta tête sera d'airain. Ça ressemble à vraiment une grosse migraine ou une grosse dépression. Ou... Et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra la pluie à ton pays, de la poussière, de la poudre. Il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. On continue, ton cadavre sera en pâture de tous les oiseaux du ciel, des bêtes de la terre, etc. Il n'y a personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire. Ça veut dire que là, c'est l'âme, les émotions, l'intelligence qui est atteinte. D'aveuglement, c'est quelqu'un qui n'arrive... C'est pas simplement un aveuglement physique, hein. Parce que là, c'est dans la catégorie de la confusion, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. C'est-à-dire que même ce qui est évident, eh bien, tu n'arriveras pas à le saisir. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle, tu bâtiras une maison, tu ne l'habiteras pas, tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ensuite, il est parlé des animaux, etc. On va continuer, verset 34. Le spectacle sous les yeux te jettera dans le délire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va finir à paraître tellement oppressé par ce qui lui arrive qu'il en perd la tête. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher sur toi et ton roi que tu auras établi, une nation que tu n'as pas connue, etc. On continue. Bah, après, il y a toute l'histoire des insectes qui ravagent, etc. Mais on passe au verset 39. L'Éternel... Et je vais vous laisser lire tout ce qu'il y a dans tout le chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Lisez-le chez vous. Mais là, je veux rester sur le sujet de la santé. Tu dis, ben, bien, parce que pour l'instant, on n'en parle pas. Ça arrive. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes. Ça veut dire que c'est des choses qui se transmettent, des maladies héréditaires. Par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois tout détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de la loi. Ce qui veut dire que s'il y a une maladie qui n'est pas mentionnée là, tu dis « Ah, ouf, il y a cette maladie-là, elle est pas... il y en a d'autres encore qui ne sont même pas mentionnées. » Mais de quoi est-ce que nous parlons ? Nous sommes en train de parler que le fait de ne pas obéir, de vouloir vivre une relation avec Dieu qui repose sur les œuvres, cela nous place sous la loi qui définit le standing de Dieu, qui dit « Ah, tu veux avoir une relation avec moi en fonction de tes mérites ? Alors je vais te montrer mon exigence. Laisse-moi définir le péché et si tu ne fais pas ce que je te dis puisque tu veux faire quelque chose. » Eh bien, dans ces cas-là, voilà, la maladie, notamment, il n'y a pas que, hein, on l'a compris, mais la maladie va s'attacher à toi. Voilà la malédiction de quelqu'un qui se place sous les œuvres. Dites-moi, selon la définition de Dieu, je vais poser une question et je vais vous demander de réfléchir. Est-ce que la maladie fait partie de la liste des bénédictions ou des malédictions? Je vais répéter la question. Certains viennent juste de se réveiller là. Je dis, attends, je vais réfléchir. La maladie, est-ce que Dieu l'a placée dans la liste des bénédictions ou des malédictions? Oui, pour Dieu, la maladie fait partie des malédictions. Et la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. 1 Pierre chapitre 2, 24 nous dit, vous vous rappelez ce verset? 1 Pierre chapitre 2, 24 nous dit, dans son propre corps, il a porté nos péchés sur le bois, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste, c'est-à-dire par sa vie à lui. C'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. C'est-à-dire que Christ est devenu malédiction, il est devenu la pénalité pour celui qui a enfreint la loi, lui qui n'avait pas enfreint la loi, afin que nous puissions être traités comme quelqu'un qui n'a jamais enfreint la loi, bien que nous l'ayons tous fait. Donc qu'est-ce qui reste? La bénédiction. Il reste la bénédiction. Nous sommes sous la bénédiction de Christ grâce à son obéissance à lui. Ce qui veut dire, que oui, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Légalement, aucun de ceux qui ont accepté ce sacrifice ne devrait rester malade. Légalement, nous avons tous le droit, c'est légal, nous avons tous le droit d'être en bonne santé. Et il importe à Dieu que nous soyons en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'alors nous reflétons sa vie. Nous reflétons sa vie. Donc, dire que Dieu a quelque chose à nous enseigner par la maladie, alors qu'il s'est arrangé pour nous libérer de la malédiction de la loi, afin qu'à travers Abraham, nous soyons bénis, c'est-à-dire que comme l'exemple d'Abraham, par la foi nous recevions les bénédictions, par la foi nous ayons une relation avec Dieu, et qu'en fonction de l'obéissance de celui qui a payé le prix, nous héritions des bénédictions. La maladie n'est pas une bénédiction. Et parce que la maladie n'est pas une bénédiction, je vais tous vous encourager à la traiter comme une malédiction, c'est-à-dire à ne pas vous en servir. Je peux avoir quelques amens là, parce que c'était bon. Vous savez, on est dans un pays où il y a tellement d'aides qui sont données ici et là, qu'il est très facile d'en abuser. Il est rare aujourd'hui de trouver des gens qui ne se mettent pas en maladie pour une raison ridicule. Combien aujourd'hui d'employés viennent au travail avec de la fièvre? Ah non, dès qu'ils ont 39,5, ça y est, ils appellent le docteur, et après, ils se demandent, quand il y a vraiment une maladie grave qui vient, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas la foi pour être guéris, parce qu'ils ont joué avec la maladie. Ils ont profité d'un système, et Dieu n'est pas insensible à cela. Pourquoi? Parce que ça nous fait du mal à nous. Aller dire à tout le monde, pourquoi tu n'es pas au travail? Oh, je suis malade. Au fond, vous saviez très bien, vous auriez pu aller au travail. Mais à force de le dire, je suis malade, la maladie entend et dit, tiens, non, le mieux c'est que, comme l'apôtre Jacques nous le dit, eh bien, c'est que notre cerveau entend ce que nous dit, et la Bible dit, tu à ce que tu dis. C'est-à-dire, notre cerveau entend et donne un ordre, parce que tout part de cela, hein, c'est comme ça que ça marche. Notre cerveau entend, donne un ordre à notre système immunitaire et dit « relâchez-vous les gars ». Parce qu'elle a dit « elle est malade, laissez faire, arrêtez de travailler, laissez faire ». Quelqu'un dit « c'est vrai ». Alors oui, Christ est devenu malédiction. Il est devenu. Afin que nous soyons bénis, afin que la première chose, c'est que nous connaissions cet éternel qui est absolument merveilleux et que nous puissions vivre selon son standing à lui, sachant qu'il est le Dieu de la vie. Dieu n'enverra jamais quelqu'un se faire exploser. Le Dieu de la Bible, tel qu'il est révélé à travers le peuple juste, il n'enverra jamais quelqu'un se faire exploser pour gagner le ciel. Ça, c'est le Dieu de la mort. Et pas le Dieu des Écritures tel qu'il est révélé. Et la Bible nous dit clairement que la maladie fait partie du règne de la mort. D'abord, la maladie est un début de mort. Hein? Et le Seigneur est venu afin que nous puissions être en bonne santé. Il importe à Dieu que nous soyons en bonne santé. Peu importe ce qui rôde comme virus, peu importe de quoi notre grand-mère est morte ou notre grand-père est mort, ça n'a son... Non, tu es attaché au Dieu de la Bible, alors dans ces cas-là, il te veut en bonne santé. Ce qui veut dire, ne joue pas avec la maladie. Parce que très souvent, les gens jouent avec ce qu'ils peuvent contrôler. Mais que se passe-t-il si un jour, c'était plus seulement une petite douleur au dos, vous savez, la fameuse douleur au rein qui ne se vérifie pas, que personne ne peut vérifier. Non, mais j'ai mal au rein, j'ai mal au dos, alors je ne peux pas venir travailler. Et personne ne peut vérifier. Ça, c'est quelque chose qu'il est très difficile de qualifier, de nommer. Donc, beaucoup de gens en profitent. Mais si un jour, à la place de ce juste simple mal de dos, tu te rends compte que tes forces, tu n'en as plus, tu te rends compte que tu dépéris, tu te rends compte que les douleurs se sont amplifiées, tu finis par aller chez le médecin et le médecin te dit, vous avez un cancer. Ma question, vous jouerez encore ? Ben, le problème, c'est que vous ne saurez plus de quel côté vous êtes. Vous aurez semé tellement de confusion dans votre vie en jouant avec la maladie que le jour où il y a une maladie qui réclame plus de prise de position, vous serez trop faible. Il y a de grandes chances que vous serez vaincu. Ben, dites donc, votre silence m'impressionne là. Nous, les chrétiens, hein, on ne peut pas avoir un double langage comme cela. Il est dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. En tout cas, dans le psaume 107, versets 1 et 2, il est dit « Dites merci au Seigneur, car il est bon et son amour est pour toujours. Qu'ils disent cela, les rachetés que le Seigneur a libérés. Qu'ils disent cela, ceux que le Seigneur a arrachés à l'ennemi. » Une autre version dit « Célébrez l'Éternel car il est bon ». Il n'est pas dit « Célèbre-le quand tu te sens ». Non, tu célèbres l'Éternel. Quand nous nous assemblons pour louer Dieu, chacun fait sa part. Pourquoi ? Parce qu'il est bon. On n'a pas les yeux sur soi. Non, parce qu'il est bon. Et il est dit « Car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire. » J'aimerais savoir combien ici sont les rachetés de l'Éternel. Alors la Bible dit que tu as quelque chose à dire. Que les rachetés de l'Éternel disent. Ma question est, qu'as-tu à dire ? Parce que tu as quelque chose à dire. Si tu as été racheté, tu as quelque chose à dire. Ma question est, qu'est-ce que tu as à dire face à la maladie ? Qu'est-ce que tu as à dire face au manque ? Qu'est-ce que tu as ? Tu devrais dire quelque chose parce que tu as été racheté de la main de l'ennemi. Il y a quelque chose que tu as à dire à ton ennemi. Il y a quelque chose que tu as à dire à la maladie. Et ce que tu peux dire, c'est parce que le prix a été payé, parce que celui qui est venu de Dieu a été envoyé, il a porté sur la croix mes maladies, je refuse de porter la maladie. Je ne manquerai de rien. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Je suis toujours en haut, jamais en bas. Parce que je suis racheté, mon Dieu est pour moi. Parce que je suis racheté, rien ne peut me vaincre. Parce que je suis racheté, mes ennemis qui sont venus contre moi par un chemin repartent par 7 chemins différents. Et la Bible dit, tu as ce que tu dis. Gloire à Dieu. Eh ben voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu.